bonjour à chacun et chacune. Heureux de vous retrouver. La semaine dernière, nous étions avec Marie-Annick à Lussanger, cette petite communauté entre Rennes et Nantes, au milieu de la campagne. Et cela me touchait parce que je crois qu'il y a vraiment besoin que des lieux, des églises, des morceaux de la famille de Christ soient implantés partout. On voit dans notre propre communauté les difficultés de transport, hein, parfois, et ça je pense qu'il faudra qu'on en parle un jour. Il y a quand même des familles, des gens qui ont des situations qui ne permettent pas de venir, et je crois qu'il y a là des circonstances concrètes pour manifester ce qu'est une famille. On a passé vraiment un bon moment, là, quelques temps on était aussi à Dole, et cela me touche, et je me disais, dans le fond, nous avons une partie de la famille qui est ici, hein, et avec, il y a dans cette partie du corps de Christ, ici, je crois, beaucoup de talents, de capacités. Il y a encore sûrement une œuvre à faire pour que le corps soit avec les bonnes liaisons, hein, puis que le Seigneur puisse tirer l'accroissement du corps selon la force qui convient à chacun. Hein. On l'a entendu aussi dans les prières, il y a sûrement encore une œuvre profonde à faire. Mais je crois qu'il y a la famille, il faut que chacun trouve sa place dans le corps et au bon endroit, à la bonne articulation. On est unique chacun. C'est pas du tout le thème de mon message, mais c'est vrai que la louange a beaucoup insisté sur le Père. Hein, nous sommes des enfants, Dieu est notre Père. Ça, c'est vraiment la révélation que l'on a lorsqu'on vient à Christ, par Jésus d'ailleurs. Hein, c'est uniquement par Jésus qu'on peut saisir et que ces choses viennent s'installer dans notre cœur. Ce matin, devant la marche chrétienne qui ne va pas sans difficulté jusque-là, je pense que la plupart de ceux qui vraiment sont à Christ me suivront. La marche chrétienne ne va pas sans difficulté parce que après que le vin nouveau de l'Esprit a été versé dans les outres neuves des cœurs, parce que finalement la nouvelle naissance c'est ça, c'est un vin nouveau qui est versé dans des outres neuves, on ne peut pas, ce qui est cher, ce qui est esprit, eh bien après cette période, vous savez, moi j'aime beaucoup le vin, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Disons que mon père ayant fait du vin pendant 40 ans, j'ai pu suivre la fabrication du vin, la vigne, dont je parle souvent, et puis le vin. Et le vin, quand on l'écrase, hein, déjà pour avoir du vin, il faut écraser les grains, ce n'est pas toujours très agréable. Il y a un temps qui s'appelle un temps d'ébullition du vin. Et je pense que ça m'a beaucoup parlé, moi, quand je suis converti. Il y a un temps d'ébullition et on voit et on se réjouit dans l'Église. Il y a vraiment des nouvelles naissances. Hein. Eh bien, il y a une ébullition, c'est merveilleux, c'est un enthousiasme. Nous sommes appelés... alors, ça bouillonne des fois dans tous les sens. Et le vin, quand il est écrasé, il y a un temps, au bout de 5-6 jours, il y a une ébullition. C'est-à-dire, vous voyez, dans la cuve où le vin est écrasé, il y a une mousse d'un très, très beau rose. Je ne sais pas si c'est un rose tyrien, vraiment un très, très beau rose, une mousse épaisse. Et c'est une ébullition tumultueuse, il est même dit. Hein, donc c'est quelque chose de très fort. Et pourquoi dire ça? Parce que la nouvelle naissance, ben je crois qu'il y a ça. Il y a les vins nouveaux dans les outres neuves et c'est quelque chose de merveilleux. Et simplement, ça c'est le début. Quand le vin est dans cet état-là, je peux vous dire, il n'est pas bon à boire. Et va commencer un processus de maturation et de clarification. Et je crois que c'est pareil dans nos vies. Donc il y a la nouvelle naissance et puis il y a la marche chrétienne ensuite, qui ne va pas sans difficulté. Le Seigneur, notre Père Céleste, que nous avons chanté ce matin, il va veiller sur notre voie et par des alertes, des avertissements, des corrections, des jugements, il nous garde et il nous ramène à lui. Notre cœur est complexe, mais si nous aimons la vérité, notre Père saura comment faire pour nous garder. Notre cœur est complexe. Et on voit dans la parole des hommes qui viennent à Jésus, et puis ils ont des phrases curieuses. Hein. Moi, j'aime beaucoup Je crois en toi, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est l'homme, c'est nous. Je crois en toi, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Fais-moi revenir et je reviendrai. Comme si je ne pouvais pas revenir tout seul. Non, on l'a dit, je ne peux pas. Il y a des choses, des fois, je suis tellement, tellement dans le fond du trou. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Je ne sais pas si vous avez des fois vécu ça dans votre marche chrétienne. C'est un verset qui m'a touché il y a quelques temps, quelques jours. Des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Le Seigneur m'a pardonné pourtant. Mais il y a des conséquences, y compris après notre conversion. C'est encore presque plus douloureux quand on voit nos chutes et nos rechutes après la conversion. Je ne parle pas forcément de péché grossier, mais de la marche par la chair, finalement. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Voilà des cris de croyants qui sont en marche. Cris paradoxaux, ça veut dire qu'ils sont plus. Et vraiment qu'on puisse nous avoir des cris comme ça dans nos vies. Ce matin, le thème de mon message, ce sera « Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ». J'hésitais entre ce titre-là et puis le titre qui pourrait être tiré du passage qu'on va lire tout de suite dans Hébreux 12, « Supporter le châtiment ». Alors, comme je crains toujours de... Je ne voudrais pas vous décourager. Alors, quel titre prendre ? J'ai plutôt pris celui-là. « Ne perds pas de courage ». Lorsqu'il te reprend, mais ça veut dire que nous allons traiter, quand le Seigneur nous reprend, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce qu'on distingue que c'est lui qui nous reprend? Qu'est-ce qui a amené qu'il nous reprenne? Et que faire lorsque le Seigneur nous reprend? Comment réagit-on? C'est un peu cela que je voudrais voir avec vous ce matin. Nous allons pour cela lire le texte de base dans Hébreux 12 à partir du verset 4 et puis nous lirons deux autres textes qui nous parle à la fois de la sévérité de Dieu, mais ce cœur de compassion qui veut pas nous lâcher. Quoi. Alors, je vous invite à lire dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Hébreux 12, verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ?» Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme à des fils, comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Grand sujet aujourd'hui. Nous voyons les résultats que ça donne lorsque les enfants ne sont pas repris. Malheur au pays où les femmes et les enfants dirigent. Nous vivons ces temps, frères et sœurs. Ce n'est pas le thème de mon sujet ce matin, mais quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ma vie là-dessus. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai, merveilleux verset, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous allons prendre ensuite un passage dans Osée 7, à partir du verset 8. Osée 7. À 16. Osée 7, verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du moût, ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Des paroles extrêmement sévères, on verra un peu le contexte. Psaume 50 également, ce sera ma troisième lecture. Le psaume 50, les versets 7 à 23. Psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche ? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il y a là des textes, donc il y a le texte d'Hébreux, hein, qui nous, c'est vraiment le thème, je voulais qu'on se positionne dans cette attitude de cœur. Le Seigneur nous reprend. Dans la marche chrétienne, si le Seigneur ne vous a jamais repris dans votre marche chrétienne, je dirais c'est qu'il y a un problème. C'est que vous êtes dans une situation que je vais décrire tout à l'heure, à tel point que vous ne le réalisez même plus. Mais il est normal que le Seigneur, que nous avons découvert comme notre Père, nous reprenne. Alors qu'est-ce qui amène le Seigneur à nous corriger et à nous reprendre ? Une première raison, c'est que si nous avons cru, si nous avons été scellés du Saint-Esprit et si nous avons été convaincus de péché, si notre cœur a été circoncis, alors nous avons été intégrés à l'Église de Jésus-Christ. Ce que je dis là, c'est un fait, ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. C'est une réalité spirituelle. L'Église de Jésus-Christ, c'est celle dont il a dit qu'il la bâtirait et celle dont il a affirmé que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais cette Église à laquelle, si tout ce que je vous ai dit est réalisé dans vos vies, si vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire aussi, et ça veut dire aussi que nous sommes alors son épouse, celle qu'il se prépare Et cette épouse, il veut qu'elle soit pure, sans tache, pour le jour où il viendra la chercher. Voilà déjà une raison pour laquelle il est normal qu'à partir du moment où il a déposé, il est venu habiter en nous, qu'il a déposé en nous son esprit, qu'il a mis son sceau, qu'il nous a marqué, que nous lui appartenons, eh bien, c'est normal, il s'occupe de nous. Puisque nous sommes son épouse, il va s'attacher, il va préparer cette épouse. Et chacun de nous, nous faisons partie de cette épouse, donc il nous prépare. Rien de plus normal. Et si il est amené à nous reprendre, c'est que ces portes de l'enfer qui ne prévaudront pas sur l'Église de Jésus-Christ, à ce jour et pour l'instant, elles sont actives. Car Satan n'est pas lié, la parole le dit, il le sera, mais à ce jour, frères et sœurs, Satan n'est pas lié, ça se saurait et ça se verrait. Il agit à travers notre chair, à travers l'esprit du monde, lorsque, ça a été dit dans une prière, notre cœur est partagé, lorsque les séparations ne sont pas faites, l'esprit du monde, dont nous voyons des manifestations, ça serait le sujet d'une prédication en ce moment, nous voyons ce que donne l'esprit du monde, un esprit d'une révolte inouïe. Nous sommes dans des temps quand même très particuliers où là, c'est clair, il n'y a plus aucune autorité qui n'est reconnue. Aucune autorité qui n'est reconnue. On n'accepte même plus d'avoir une autorité pour se représenter, etc. C'est chacun ce qu'il veut au moment où il veut, à la vitesse où il veut. Chacun veut aller au palais, dicter tout. Enfin, c'est invraisemblable. Mais c'est des temps, c'est des faits. Hein. Nous alarmons pas plus que cela. Attristons nos cœurs. En tout cas, voilà l'esprit du monde qui agit maintenant dans les fils de la rébellion et nous étions les mêmes. Et il y a peut-être encore des traces. Donc l'ennemi peut agir à travers notre chair, à travers l'esprit du monde, et les hordes de démons ne se privent pas d'attiser et de manigancer, tout simplement parce que nous nous égarons souvent et il désire, le Père, lui, nous garder sur le chemin qu'il a ouvert pour nous. Ce que le Père m'a donné, nul ne les arrachera de ma main. Eh bien, notre Seigneur, qui a prononcé ces paroles, il fait ce qu'il faut pour chacun de ceux que le Père lui a donnés. Vous rendez compte, frères et sœurs, le Père nous a donné au Fils pour que le Fils, qui est notre Seigneur, nous conduise au Père et à la félicité éternelle. Le problème, c'est que toute l'Écriture nous montre combien l'homme est prompt à s'écarter de son Créateur. Osée 11, encore verset 7, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. » J'aime beaucoup ces versets. « Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te traiterai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite, et Père qui parle au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Vous vous rendez compte, c'est l'Ancien Testament. C'est comme si Dieu était désemparé devant cette tendance de son peuple, des croyants, à s'éloigner de lui. C'est Israël. Nous lui ressemblons tant. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Et Dieu, il est ému. C'est comme s'il ne savait plus comment faire. Il sait comment faire, mais il ne veut pas user de toute sa force, sinon on serait pulvérisé. Alors, supporter, nous sommes invités à supporter la correction, le châtiment. Lorsque nous sommes repris, cela se passe d'abord dans notre conscience. Toujours par notre conscience. Si nous sommes à Christ, le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. Et il nous parle. Et quand il a parlé, un chant qui dit on ne peut plus douter, mais quand il a parlé, nécessairement, nous sommes placés devant un choix. Soit d'obéir, soit d'entrer dans un débat qui est largement décrit et plusieurs passages dans la parole. Tant que je me suis tu, mes os sont desséchés, etc. Puis à un moment, je t'ai fait connaître mon péché, je me suis humilié. Mais dès que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, sur un sujet, sur un autre, sur une direction qui n'est pas tout à fait cela, ça commence par la douce présence de Dieu qui... Nous sommes placés devant un choix. La parole nous le rappelle encore. Si je prends par exemple dans Romains 2, il est question des païens, mais finalement nous le sommes. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Nous avons une conscience. Et si nous sommes à Christ, cette conscience, elle a été éclairée. Elle a été remise, elle est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus efficace, beaucoup plus sensible. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà ce qui se passe lorsque le Seigneur vient nous reprendre. C'est le premier stade où il nous reprend. À partir de là, c'est nous qui avons la main. Que faisons-nous de ce qui se passe là, à cet instant? Soyez une obéissance prompte. Ça peut être un chemin de pardon. Ça peut être quelque chose où le Seigneur nous montre que là, on est en train de faire quelque chose qui est selon notre volonté, mais surtout contre la sienne. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais chacun, je crois, est sensible à cela. Si nous acceptons, si nous obéissons instantanément, la libération vient de suite. Mais il faut reconnaître que bien souvent, nous commençons une petite discussion avec le Seigneur et nos pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est solennel, ça, frères et sœurs. Je sais que vous me comprenez. À partir du moment où on est à Christ, la présence de Dieu, rendue sensible cette conscience, et nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Si nous commençons à discuter, un processus se met en place. Soit auto-justification ou accusation. On peut plaider coupable, ça peut être la fausse repentance, je parlerai de Saül. Auto-accusation, refus de s'humilier, cette résistance conduit à l'enfermement, à l'endurcissement, à la sensibilité. Frères et sœurs, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai lu l'Écriture, mais c'est aussi parce que j'ai connu, parfois je connais ces choses dans ma vie, que ce soit clair. L'enfermement, nous allons, vous me suivez, Dieu a parlé, j'ai pas pris position tout de suite, j'ai commencé à discuter. Et là, il y a un processus. C'est un processus mortifère, quelque part, qui se met en place. On va prendre Saül. Je ne vais pas relire tous les textes. Saül a été choisi par Dieu. Soyons précis, il a été choisi par Dieu à la demande du peuple. Donne-nous un roi comme les autres nations. Ça aussi, c'est un thème récurrent qui marque déjà l'éloignement de Dieu. Dieu avait parlé à son peuple. Ensuite, il a établi des juges pour conduire le peuple. Dieu parlait pour conduire. Il y avait comme une confusion, si vous voulez, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Mais voilà, c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et le peuple... Ah, donne-nous un roi comme les autres nations. Pensez que ça allait être Dieu. En tout cas, Saül est l'homme qui est choisi par Dieu à ce moment-là. Et il y a une première désobéissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait en ce temps-là un prophète et sacrificateur, Samuel, qui devait offrir un sacrifice. C'était clair, Dieu avait voulu les choses. Chacun avait son rôle, sa place. D'une certaine manière, il en est toujours de même aujourd'hui, même si nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Et Saül, Samuel tardant à venir, a décidé d'offrir lui-même le sacrifice. Ça, c'est une chose. Il y a une désobéissance. Mais quand Samuel va le reprendre, Saül aurait pu dire « Pardon, Samuel, j'ai désobéi. J'ai fait quelque chose, ce n'était pas à moi de le faire. J'ai été impatient. Je confesse. Et puis, que le Seigneur me pardonne. » Il n'a pas dit ça. Vous voyez, c'est là que ça... Il a dit, il a fait une belle explication, puis il a dit « Mais je me suis fait violence pour faire... » Il ne s'est pas fait violence. La suite des choses nous le montre. Il a quelque part usurpé, il a dépassé, il est sorti de sa place. Vous voyez, il a pas reconnu simplement. Il s'est trouvé une explication qui finalement le mettait en bonne posture. J'ai résisté, mais je me suis fait violent. Non. Et là, alors qu'en fait il a été impatient, incrédule, il aurait pu confesser ça simplement. Il y a chez Saül une deuxième désobéissance avec les Amalécites. Dieu avait dit « Tu les dévoueras par interdit, tu ne laisseras rien. » Et là encore, Samuel revient. Excuse pour ceux qui ne connaissent pas peut-être toute cette histoire, mais on ne peut pas lire tous les textes. Je vous donne les références à les lire dans 1 Samuel 13. C'est vraiment cette histoire-là qui... C'est intéressant de lire la totalité du texte parce qu'on voit comment Saül, excusez-moi l'expression, s'enfonce. Une deuxième fois avec les Amalécites, donc il devait tout dévouer par interdit. Il a conservé des brebis et puis d'autres choses. Et là encore, au lieu d'une vraie repentance, il s'est enferré en se défaussant sur le peuple et en refusant de s'humilier, reconnaissant devant Samuel, mais refusant de s'humilier devant tous. Là, on a quelque chose aussi qui se passe. Il n'a pas fait ce que le Seigneur avait demandé. Et en fait, il fait porter, excusez-moi le chapeau, mais au peuple. Les peuples ont voulu garder les brebis, alors on a gardé, mais moi, effectivement, je ne voulais pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Et il va s'humilier, parce qu'il connaît suffisamment la parole de Dieu, il connaît suffisamment Dieu pour savoir qu'il faut demander pardon, s'humilier. Mais il dit à Samuel, je m'humilie devant toi, mais ensuite, glorifie-moi devant le peuple. Dieu ne va pas le suivre, Dieu va l'abandonner. Et si vous suivez tout le texte, et là je vais en venir, nous sommes des hommes de la même nature que Saül et qu'Élie. Cette démarche de Saül va l'emmener à un tel point qu'il retournera consulter les voyantes. Il est désavoué de Dieu. Dieu va le mettre à l'écart et il va retourner consulter les voyantes. N'oubliez pas que c'est Saül qui avait chassé du pays les voyantes, la magie, etc. On aurait pu dire de Saül, il a viré tous les hauts lieux. Eh bien, par cette désobéissance, en s'enferrant dans cette désobéissance, il va le retourner à son vomi quelque part. Je ne voudrais pas rester sur ce thème de Saül, parce que Saül, c'est aussi un type spirituel de la volonté de l'homme et de la chair. N'oublions pas qu'il y a quelque chose qui nous parle aussi à nous. Quand le peuple a voulu un roi selon les autres nations, c'est vraiment la volonté de l'homme. Et la volonté de l'homme, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplira à travers l'homme qu'il a choisi. David, c'est moi qui vous ai choisi. Donc voilà une description de ce qui peut se passer. C'est une première voie, c'est l'enfermement. Et une deuxième possibilité qui peut aller avec... C'est l'endurcissement. Au début, je m'endurcis, à la fin, c'est Dieu qui nous endurcit. Les exemples ne marchent pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On connaît très bien ce qui s'est passé pour Pharaon, vous connaissez ces textes, nous les avons prêchés souvent ici. Dieu envoie, il fait des signes, des prodiges et des miracles, parce qu'il a décidé de libérer son peuple. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à travers ces signes, ces prodiges et des miracles qu'il envoie en Égypte, toutes ces plaies sur l'Égypte, il veut aussi amener Pharaon à capituler devant Dieu, à reconnaître. Et quand nous lisons ces textes sur les 10 plaies, les 5 premières, Pharaon est touché, mais il endurcit son cœur, il résiste. Et à partir du 6e, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Ça souligne la patience de Dieu. La patience de Dieu. Et nous devons compter sur la patience de Dieu. Mais nous devons demeurer dans la crainte et ne pas prendre ça comme prétexte pour remettre à plus tard ce que nous avons à faire. Un troisième aspect, c'est l'insensibilité. Nous allons lire dans Matthieu 13, à partir du verset 10, un passage qui parle de cela. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il parlait des religieux, on va dire. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Écoutez ce texte d'Ésaïe dans Ésaïe 6. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ces versets qui sont rappelés ici, ces versets d'Ésaïe, donc Jésus les reprend à son compte, avec ce point central, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On voit bien qu'il y a là le résultat d'un processus, et je vais revenir sur ce terme insensible. Paul va également devant Agrippa, où il défend son ministère. Il va de nouveau citer ces paroles d'Ésaïe. Donc, il y a là un sujet important. Si on le trouve à la fois donné par les prophètes, par les apôtres et par celui qui est la pierre angulaire, Jésus-Christ. Le terme qui est employé là, insensible, ça veut dire épaissi. Le cœur s'est épaissi, devenu gras. Le psaume 119 nous parle de la graisse. Verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse, la même pensée. L'insensibilité. Au démarrage, on croit que c'est une protection. La graisse est un tissu indifférencié, très peu innervé. Sur le muscle, si on vous pique, ça fait mal. La graisse, ça fait pas mal. Et c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que on n'entend plus, on ne ressent plus. La sensibilité est perdue. Ce qui est démarrage a été pris pour une protection. Quelque part, on s'est enrobé, on s'est réfugiés. On s'est dit, ben, ça va bien, ça a l'air d'aller bien. C'est une fausse paix qui s'installe. Voilà ce processus. Il n'est pas sans solution. Et j'aborderai alors l'humiliation et le retour qui rétablissent notre communion. Et je relis ce passage du psaume 119. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde de tout cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Pas facile de confesser cela. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Qu'il revienne à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Nous traitons là d'un sujet qui est récurrent, qui est permanent dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous avons comme un cycle de désobéissance, d'idolâtrie, d'avertissement de Dieu, d'endurcissement du peuple, qui amène d'ailleurs des fausses doctrines, parce que dans tout le processus de justification, tant qu'on veut parvenir, ça amène à cela. Pensez à ces pharisiens. Jésus va leur dire, vous annulerez la parole de Dieu pour vos traditions, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau, vous avez rajouté plein de règles, mais finalement, le cœur, vous l'avez oublié. Et puis, dans ce cycle, il y a un jugement de Dieu. Alors, j'insiste, oui, il peut nous arriver dans notre vie que nous soyons jugés, qu'il y ait des jugements qui viennent sur nos vies. Ce n'est pas le jugement dernier, mais c'est quand même une grande douleur, parce que ça veut dire que nous avons résisté tout un temps, et puis il y a le retour. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'exil de Babylone, qui est vraiment la manifestation de cela. Le jugement de Dieu, nous voyons ça dans Jérémie 29 et 30, je ne veux pas multiplier les textes, le jugement de Dieu consistant à l'exil à Babylone, qui vient, il est prononcé, il est exécuté. Je ne reviendrai pas sur les longs avertissements de tous les prophètes, de Jérémie qui a souffert comme ce n'est pas possible. Et jusqu'au bout, Dieu est prêt à reporter ce jugement, à l'annuler. Mais finalement, il est prononcé, exécuté. Mais même là, Dieu n'a pas perdu de vue son peuple. Cette captivité sera longue, oui, elle sera longue, contrairement à ce qu'annoncent encore des prophètes qui veulent séduire le peuple, qui veulent être bien vus, qui aient des paroles qui sont faciles à entendre. Les prophètes qui vont dire, mais non, Dieu ne va pas nous laisser là, dans 2 ans on sera de retour. Dieu est obligé de renvoyer Jérémie pour leur dire, cette captivité durera 70 ans. Mais elle aura un terme, le terme que Dieu a fixé. Dieu ne laisse pas son peuple. Le peuple qu'il châtie, je rappelle qu'on est à Babylone, la sentence a été exécutée, nous sommes dans le temps du châtiment. Donc au sein même de la correction, Dieu ne laisse pas son peuple sans espérance. Frères et sœurs, supportons le châtiment, reconnaissons ce qui en a amené, ce qui en a été la cause, mais saisissons qu'au sein même de ce temps difficile, Dieu ne laisse pas son peuple sans espérance. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Ils y sont donc. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel. Je suis avec toi dans la captivité où je t'ai conduit. Je suis encore avec toi. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, frères et sœurs. Je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé et toutes les nations que j'ai utilisées pour te châtier. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité. Écoutez, je ne puis pas te laisser impuni. Ça, c'est les paroles d'un père qui châtie son enfant, non pas par réaction et parce qu'il en a ras-le-bol, mais qui a été obligé. Puissions-nous être des pères ainsi, qui ne châtient pas leurs enfants parce qu'ils sont excédés, mais parce qu'ils savent que ça va être nécessaire pour les faire grandir et pour que demain ils connaissent la vraie liberté. Voilà le Père céleste que nous avons. Moi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Voilà un cœur d'un père ému de compassion. Il est intéressant de voir que la suite de ce passage, je vais vous le lire, je en reparlerai peut-être une autre fois, mais c'est dans Jérémie 30 au verset 12, c'est la suite de ce que Dieu vient de dire à son peuple. Je ne t'anéantirai pas. Mais il dit ceci, ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de la blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Dieu est au courant de tout. Dieu est au courant de tout. De la profondeur, je ne veux pas développer ça. Il y a vraiment quelque chose de fort sur le cœur. Il soigne avec légèreté la plaie de mon peuple. Frères et sœurs, c'est quelque chose que j'ai très fort à cœur, auquel je ne peux plus me taire. Le peuple de Dieu, oui, c'est une belle famille. Mais il faut que nous acceptions que les plaies soient traitées par Dieu. Ce n'est pas le tout de confesser que tout va bien. Il veut traiter en profondeur pour nous préparer, pour que nous soyons forts et fortifiés. Ça conduit dans des temps d'humiliation et je crois que le Seigneur nous y conduit. Voilà donc dans ces épreuves, finalement, ne perdons pas courage. Il y a cette tension, j'y reviendrai tout à l'heure. Reconnaître que c'est justice, parfois, ce qui se passe, parce que on est dur, mais ne jamais douter que Dieu... Il y a un équilibre. Si on bascule d'un côté ou de l'autre, on va basculer dans un désespoir qui conduit à la mort, et de l'autre, dans une illusion. J'y reviendrai. Une autre situation qui peut se produire lorsque le Seigneur nous a repris, lorsqu'il y a finalement désobéissance, c'est Jonas. Alors Jonas, là aussi, je ne vais pas lire le texte, je vous invite à lire, c'est pas très long le livre de Jonas, c'est 3 chapitres. Il y a une parole claire de l'Éternel pour Jonas. Va à Ninive et annonce-leur qu'il va y avoir un jugement s'il continue comme ça. La parole de l'Éternel est très claire pour Jonas. Il a la destination, c'est Ninive, et il a ce qu'il a à dire. Et là, ce n'est pas une désobéissance larvée de Jonas. C'est une désobéissance, si j'ose dire, franche. Non, j'irai pas. J'irai pas à Ninive, je m'enfuirai à Tarsis. La désobéissance est aussi claire que les instructions étaient claires. la désobéissance de Jonas, cette fois-ci, sur le bateau qui le mène à Tarsis, Dieu déclenche une tempête. Et là, cette tempête, elle a des conséquences, non seulement pour Jonas, mais pour tous ceux qui sont dans le bateau. Vous connaissez ou vous lirez, Jonas est finalement démasqué parce que ces hommes qui sont dans le bateau, je ne sais pas s'ils sont très croyants, mais ils se disent qu'il y a quelque chose. Ils ont cette révélation qu'il y a, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous amène le malheur à bord, là. Et ils invoquent le Dieu. Et le sort tombe sur Jonas. Et là, c'est intéressant. Alors là, Jonas, il est démasqué. Cette fois-ci, il confesse sa désobéissance. Et cette fois-ci, il n'y va pas par quatre chemins, lui. Il dit... Jetez-moi par-dessus bord et le calme reviendra. Jonas a l'esprit de Dieu. Il a compris. Il a compris. Dieu lui a parlé. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut déclencher des tempêtes sur une désobéissance. Ça n'a pas tardé, là. Jonas s'est détourné de l'ordre initial, mais finalement, cette confession aussi franche, acceptant, ça fait penser à David qui à un moment a dit « Je préfère tomber dans les mains de l'Éternel que tomber dans les mains des hommes. » Alors Dieu est fort, parce que finalement, de cette désobéissance qui aurait pu entraîner la mort et la mort spirituelle de beaucoup, Dieu va entraîner Jonas dans une nouvelle aventure. L'équipage va le jeter par-dessus bord et il va être cueilli. Dieu va susciter ce grand poisson. Jonas va être 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Finalement, Jonas va entrer dans une dimension prophétique de sa vie qu'il ne connaîtra pas, mais que nous connaissons parce que Jésus lui-même y fait allusion. 3 jours dans le ventre d'un grand poisson qui l'amènera à confesser. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jésus lui-même donnera cet épisode comme annonce prophétique de sa mort et de sa résurrection. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas légers devant Dieu. Mais je vois encore là un sujet d'espérance et qui, des fois, encourage. Quand on voit où on en est rendu, si à un moment vient une confession claire et nette de ce qui n'a pas marché, Dieu réintroduit dans une nouvelle dimension. Jonas finalement ira à Ninive, qui se convertira. Tout ne sera pas réglé après, il aura encore un peu d'amertume. Mais en fin de compte aussi, Dieu va s'en servir dans une dimension prophétique extraordinaire. Alors, je voudrais simplement, pour conclure, ça, message peut-être pas très facile, pas très simple à saisir, je voudrais à la fois qu'on retienne qu'on n'ait aucune illusion, et je crois que ça a été dit par Jean-Luc, par ce texte pour la Sainte Cène. Je vais peut-être vous choquer, frères et sœurs, mais ce n'est pas notre foi qui nous sauve. C'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. Celle-là, elle est accomplie. Où est le sujet de se glorifier? Nous sommes invités à accepter ce qu'il a fait. Et effectivement, à Gethsémané, c'est la faillite de l'homme. Donc, est-ce que nous pouvons vivre, frères et sœurs, cette tension? Et je crois que nous aurons à la vivre tant que nous serons sur cette terre. Continuez, parce qu'il nous reste des illusions, frères et sœurs. Ce que nous vivons, les vies concrètes, les entretiens, montrent qu'il nous reste des illusions sur nous-mêmes. Et cela nous empêche de saisir pleinement l'espérance et d'être gardés par la foi. Nous sommes gardés par la foi. si nous avons perdu toute illusion sur nous-mêmes. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, non pas afin que tu ne chutes pas, parce que Dieu voit bien qu'à un moment, il doit nous emmener dans des situations où on est confronté à notre chute. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais il est nécessaire qu'à un moment, on se retrouve confronté à ce que nous sommes. Alors, j'ai commencé en parlant du vin nouveau dans les outres neuves, ce vin bouillonnant. Et c'est vrai que quand on vient au Seigneur, je crois qu'on ne s'attend pas à tout le chemin qu'il va nous faire parcourir, à toutes les détresses dans le fond du grand poisson. Mais je terminerai par ce passage d'Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Frères et sœurs, retrouvons le bouillonnement des premiers jours, le premier amour, mais acceptons la nécessité de cette préparation, de la clarification du vin, un vin vieux, clarifié, qui fait peut-être moins de bruit. Mais alors qui est témoin, qui a du palais, qui a un bouquet. Ce bouquet qui est donné à ceux qui ont accepté d'être repris, qui ont supporté avec patience le châtiment de l'Éternel dans des domaines particuliers de nos vies et qui peuvent confesser, il m'est bon d'être humilié. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te remets ces paroles que m'a donné d'adresser à mes frères et au milieu de mes frères ce matin et sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu conduises les temps qui viennent, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui ont été marqués du sceau de ton esprit, Seigneur, sont tes enfants, nous l'avons chanté, tu es notre Père. Seigneur, nous nous reconnaissons comme frères et sœurs, Seigneur. Nous confessons et nous nous humilions, Seigneur, pour tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, pardon des fois, bien souvent, de résister à ce que tu nous montres. Seigneur, je te prie vraiment, nous aider les uns et les autres dans ces temps, dans ces jours et ces semaines, Seigneur, à reconnaître, à accepter la faillite, Seigneur, de nos vies sans toi et cette œuvre centrale, Seigneur, que tu as accomplie à la croix. Tu es le vivant et nous saisissons cette vie de résurrection, Seigneur. Je te loue, je te bénis, te confie chacun et chacune, Seigneur, pour que cette œuvre, que tout ce qui pourrait se dresser, rejeter sur l'autre, rejeter ta parole, Seigneur, que soit maintenant se taise. Et que, Seigneur, tes serviteurs aussi, Seigneur, que tu reprends aussi, puissent grandir et te servir là où tu le veux. Que ton nom soit béni, Père. Amen.